Léon Cladel, quelques cires, œil pour œil. Pendant la péroraison cicéronienne du stagiaire récemment admis au tableau des maîtres, il avait assujetti de très vieilles besiques sur son écrochu, puis ôté de l'une des poches de sa verte houppelande à brandebourgs un tome au feuillet jauni, qui lisait attentivement et sans se préoccuper le moins du monde de la curiosité malsaine à laquelle est toujours en but de la part du public entassé dans le prétoire, quiconque échoue sur ces bancs d'infamie. « Accusé, levez-vous. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Elle résonnait encore au-dessus de la foule, observant le plus rigoureux silence. Ces paroles obligatoires et sacramentelles prononcées par le président de la cour d'assises que, entre les gendarmes assoupis, Charouel s'était déjà levé, calme et pensif, en tirant les deux longues touffes grises et pointues de sa barbe de patriarche. « Oui, répondit-il avec un léger accent germanique, à présent, il me paraît indispensable, juge et juré, de vous exposer les faits tels qu'ils se sont réellement passés. S'ouvrez toutefois qu'auparavant, je remercie l'avocat nommé d'office, qui, dans sa plaidoirie, s'est efforcé d'établir mon innocence, soit en invoquant des alibis, soit en arguant de mon irresponsabilité. Eh bien non, ce soir-là, je n'étais pas ailleurs qu'au boulevard Poissonnière. Et non, je ne suis pas fou, puisqu'en cette circonstance, j'agis avec préméditation. Non, enfin, nul autre que moi n'a frappé celui dont les habits tachés de sang figurent ici, parmi les pièces de conviction. » Est-ce à dire que je sois coupable ? Oh, pas du tout. Il m'est impossible de l'admettre, et j'espère que, non seulement après m'avoir entendu, vous partagerez mon avis, mais encore que vous approuverez ma conduite. Écoutez-moi. Quelques semaines après mon arrivée à Paris, un de mes compatriotes, ou plutôt un de mes coreligionnaires, car si nous avons gardé notre foi, nous n'avons plus de patrie, hélas, nous autres, un maudit de ma race, aujourd'hui disparu, qui m'avait procuré du travail chez le luthier, égarement décédé, du passage Vérodona, se présentant ce soir à mon logis de la rue des Abbesses et me dit textuellement ceci. « Pâtre, le loup rôde autour de ta brebis, de ta bergerie, ouvre les yeux et veille sur ton agnel. » « Bon, c'est à quoi s'en tenir, ami, lui répliquai-je en souriant. Orpha m'a renseigné. Demain, ici même à midi, son prétendant viendra. Chez moi, 24 heures plus tard, en effet, à l'heure convenue, arrivait Élie. Jamais, jamais être de sexe masculin ne m'avait inspiré pareille aversion. Non, certes que ce blondin, encore inconnu de moi, ne fût très bien de sa personne. Au contraire, il était élégant et fort. Mais trop sucrés me parurent ses verbes, et tant enveloppant ses regards, qu'illico, j'eusse tout rompu, si je n'avais pas été toujours dévoué de corps et d'âme à la chair de ma chair. Après m'avoir exprimé très savamment sa passion pour ma fille, et juré qu'il n'attendait son propre bonheur que de mon consentement à leur union, il me raconta sa vie. Orphelin dès son bas âge, il avait été recueilli par un de ses oncles, et grâce à ce digne célibataire défunt, qui choya toujours en lui l'enfant d'une sœur adorée, il avait reçu de l'éducation et jouissait d'une rente suffisante pour subvenir à tous les besoins des mignons que lui donnerait sans doute l'exquise créature qu'il aimait de tout son cœur et dont il était non moins aimé depuis qu'ils étaient rencontrés par hasard à Passy chez Elias Sanahog, gérant d'une fabrique de produits chimiques et l'époux de ma cousine Germaine Reft. Tandis qu'il m'entretenait ainsi, je remarquais que ses traits, un peu mous et très fins, n'avaient rien de commun avec ceux moins graciles et plus énergiques des damnés errants qui sont mes frères. Je lui demandais brusquement en quel pays étaient nés ses parents. « En Lorraine, » répliqua-t-il en devinant ma pensée, « à Nancy. » Mais leurs ascendants, À Metz? Et quelle religion professait-il? Une autre que la vôtre, et qui sans doute est aussi la tienne. Un geste vague et pourtant explicite fut son unique réponse, et je lui déclarai que jamais les miens ne s'étaient alliés ni ne s'allieraient aux descendants de ceux qui nous avaient persécutés si longtemps au nom de la croix. Alors il protesta de son respect pour mes croyances, selon lui plus acceptables que celles de ses devanciers, et m'assura que si je l'exigeais, il adopterait les miennes. Oh non! D'où qu'il dérive, un renégat n'entrera pas dans ma famille. Il eut un air si dolent, si consterné, qu'il m'attendrit, et je me sentis faiblir. Orpha! Criai-je de toutes mes forces. Viens, Orpha! Viens, viens! Sur la pointe des pieds, empourprée comme une rose, elle sortit aussitôt d'une chambre voisine et s'approcha de lui. Quoi, mon père? Mais les chrétiens, le savais-tu? Je crus, tant elle pâlit, que c'en était fait d'elle. Et malgré cela, le veux-tu, réponds? Oui, souffla-t-elle en me pressant les mains, oui. Je la baisai tendrement au front et m'adressant à celui qu'elle avait élu. Va-t'en, retire-toi. Plus tard, nous aviserons, si tu persistes. Seulement avant d'abjurer, réfléchis bien. À mon sens, il ne se décida que trop vite. Et quand je lui parlais de ce qui nous tient lieu de baptême, à nous, sémites, il n'hésita pas. Une opération de ce genre, inoffensive pour les nouveau-nés, est souvent très grave pour les adultes. Aussi dut-il se soumettre à 1 000 soins préparatoires. Et dès que les rabbins le jugèrent en état de la supporter, il subit la circoncision prescrite par Moïse. Ensuite, il s'alita suivant les rites. En dépit de la prudence dont, à son égard, avaient usé les chirurgiens sacrés, ses jours furent en péril, et nous tremblâmes pour lui, qui, déplaçant sans cesse les linges ensanglantés dont était recouverte sa sainte blessure, répétait en son délire le nom de la fiancée virginale qu'il n'avait pas craint d'obtenir au prix de telles souffrances. Sitôt guéri, purifié, vers la fin de décembre, un matin, il la conduisit à la synagogue et le soir même, ils partirent pour Nice. Ils y séjournèrent jusqu'en mai. Non, 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 il ne m'est pas permis de vous peindre mon étonnement et mon trouble à leur retour. Ainsi que les fleurs sur qui la pluie et la neige et la grêle sont tombées, elle était fanée, flétrie, mon trésor, mon orgueil. En elle, aucun de ces charmes ineffables qui naguère remuent les vieillards, se rappelant à son aspect la radieuse jeunesse de leur compagne dévastée ou morte. Sa beauté n'existait plus. Un orage, et quel orage, l'avait détruite. Elle m'avoua bientôt ce qu'elle ne pouvait plus me cacher. Oh, je ne l'avais que trop pressenti. C'était un fourbe et le pire des fourbes. Avant son mariage, il avait vécu publiquement avec une de ces honteuses aventurières qui courent le monde où l'on s'amuse et reprit là-bas. Pour cette fille banale, il ne tarda pas à délaisser son épouse si chaste. Et si pure, ma blanche enfant. Trahie, elle adorait encore l'ingrat. Et enfin, elle était grosse. On n'a pas l'idée de ses tourments et de ses angoisses, tandis qu'au théâtre, au bois et partout, le parjure affichait effrontément sa maîtresse. Un soir, étant rentré chez lui fort ivre, il me révolta par ses discours et ses postures. Élie, prends garde! Yahvé te punira, c'est lui qui toujours vengea les justes en Israël. L'impie, il largea le ciel et me brava. Eh bien, puisqu'il t'abandonne, dis-je alors à l'infortuné, témoin de ce double sacrilège, reviens, ma perle, reviens sous mon toit, où nous pleurons ensemble sur ton malheur et le mien. Hélas, 6 jours après cet entretien, la belle lumière qui pendant 20 années avait été toute ma joie s'éteignit en donnant le jour à un fils qui ne la précéda que de quelques minutes en la nuit éternelle. En me quittant à jamais, elle me supplia généreusement de pardonner à celui qui l'avait tué. Oui, c'est le mot tué, par ses dédains et ses brutalités. Oh Dieu, j'appris cette horreur à son chevet, éclairé par des cierges funéraires. Il avait eu l'avant-veille l'audace de porter ses mains sur elle, et les poings de ce lâche, en lui broyant le cœur, écrasèrent aussi le chérubin qu'elle nourrissait dans ses entrailles d'un sang débilité. Lui pardonner à ce bourreau, ah, sur les corps encore chauds de ses deux victimes, je fis un serment que je m'honore d'avoir tenu. Contenu depuis assez longtemps déjà, des exclamations et des bravos retentirent dans l'auditoire et durèrent jusqu'à ce que l'ordre qui lui donnait de procéder à l'évacuation de la salle. Il ne fut pas exécuté car chacun s'était tu devant cette menace et l'honnête meurtrier, indifférent à tous naguère et de tous ignoré, reprit, toujours ferme et debout à la barre patibulaire, où il s'était courbé tant de blêmes qu'aucun indigne de miséricorde. Averti par cette voix confuse que perçoivent tant de les monstres, certains qu'on leur demandera compte de leur scélératesse, il s'était dérobé, celui que vous vous complaisez à nommer mon gendre, à l'expiration que je lui réserverai. Il avait fui, tel qu'un voleur avec son associé et peut-être aussi sa complice. Où la rejoindre, où le rejoindre et comment? Il fallait, avant de se lancer à sa poursuite, que je connusse sa retraite et je parvins à la découvrir. Aussitôt que j'eus acquis la certitude qu'il se divertissait à Monaco, je vendis mon mobilier, achetai quelques hardes, pris l'arme vengeresse et filai. Muni d'un vieux violon avec lequel mon père Hébert, ancien maître de chant à Colmar, nous avait tous soutenus, sa mère, la mienne, mes frères, mes sœurs et moi. La route est longue de la butte Montmartre, où j'avais pleuré toutes les larmes de mes yeux, aux rives de la Méditerranée, où ce pervers sans remords se riait de mes pleurs. Il y a plus de 1 000 kilomètres, du Moulin de la Galette à la corniche des Alpes. Étape par étape, une douzaine de lieues par jour environ, on suivit cet interminable ruban de poussière où 100 fois au moins, pendant le trajet, la fatigue et la chaleur entravèrent ma marche. Au milieu des bourgades, traversées en haletant et dans les carrefours des villes où je ne m'arrêtais que pour reprendre haleine, ainsi qu'aux abords des carrés de faubourg, on haletait et, chapeau bas, en plein air, à l'instar des mendiants, on se servait de son gagne-pain, ce pauvre Stradivarius saisi par vos agents, et qui me sera bientôt rendu, du moins je l'espère. Une nuit, au casino, là-bas, sur ce rocher baigné par la mer et presque enclavé dans le territoire, on m'informa. Le drôle et sa concubine avaient perdu beaucoup d'argent au jeu. Décavé, ils s'étaient hâtés de regagner Paris, accompagnés d'une bande de viveurs, leurs acolytes. Ah, j'avoue que mon courage fut ébranlé. Mais bientôt le devoir m'ordonna de persévérer, et j'obéis. En sens inverse, et toujours à pied, un bâton à la main, en bandoulière, la boîte où mon instrument était enfermé, je parcourus de nouveau le même chemin, et 3 mois après mon départ de la capitale, j'y rentrais, comme j'en étais sorti, par la barrière d'Italie. Implacable et comme muré dans mes résolutions, Abraham Jacob Cohn, un de mes pareils avec qui j'étais assez lié, m'offrit chez lui, ruelle d'Iéna, hospitalité fort à point, car je n'avais plus un seul denier en ma bourse. Une fois installé là, je m'orientai, bâtis un plan. Et dès ce jour, chaque soir, je foulais l'asphalte autour des bouffes, des folies bergères et d'autres sentines hantées par le couple vicieux à la punition duquel je m'étais voué. Longtemps infructueuses, mes recherches aboutirent enfin. Et c'est pourquoi, le 7 octobre dernier, à minuit, je guettais à la porte de la maison d'or où s'était faufilé avec une troupe de ballerines et leurs courtisans, la gueuse et le gueux, objet de mon irrésistible haine et de mon éternelle douleur. Aviné, vers l'aube, il descendait, traînant après soi son impur et blême femelle, les degrés de l'étroit escalier qui donne dans la rue Lafitte. En m'apercevant sur le seuil de cette taverne, il recula ce bouc, comme quiconque s'est souillé sur la terre, rompt en la quittant à l'aspect de l'ange exterminateur dont l'épée flamboyante interdit aux félons corrompus, à tous les méchants, l'accès du paradis. Et moi, semblable au spectre du destin, j'avançais sur lui. « Tiens, Élie ! » criai-je en poignant à la gorge et le bras levé. « Sois meurtri comme tu meurtris Orpha. Là, là, même au cœur !» Et malgré les bêlements de sa chèvre à face humaine, je le poignardais. La lame recueillant son cadavre est ici devant vous. Il ne m'a pas trompé, lui, ce fer, et je le bénis. Un mot encore, et puis après, si bon vous semble, juge et juré, vous manquerez ma tête. En l'abattant, il me délivrera de la vie, votre mandataire, et moi, martyr glorifié par mon supplice, dont la responsabilité vous incombera, je serai votre bien obligé. Mais attention, au nom de qui, de quoi me condamneriez-vous ? Sans doute, natif de Mulhouse en Alsace, ou le Welche de certains Europa, attendu qu'il y ait universellement haï, je suis votre concitoyen, et doublement, par reconnaissance d'abord envers la noble nation qui nous rendit, nous, vagabonds et parias, les égaux les plus grands de ce pays. Ensuite, parce qu'elle m'est sacrée, la terre où je fus enfanté. Donc, vous estimez peut-être que moi, poussé parmi vous et membre sinon de la même tribu, du moins du même peuple, je suis passible de vos causes. Erreur. Il en est le plus ancien et le plus auguste. Avant d'être français, je suis hébreu. Celui de Nazareth, dont l'image affreuse saigne en cette toile un disque d'or au-dessus de vos fronts, a dit en son évangile, aujourd'hui, être morte, pour la plupart des vôtres, à peu près exactement ceci. Tendez la joue gauche à qui vient de vous souffleter à la joue droite. Oh, libre à vous d'enfreindre la parole de ce crucifié que nous n'adorons pas, nous, ainsi que l'adoraient vos ancêtres dont la rancune pesa si lourdement sur les miens. Libre à vous, faux disciples de Jésus, affranchis de toute religion, de transgresser les commandements de votre maître, oui. Mais nous autres, esclaves fidèles de cette loi que le Seigneur dicta sur la montagne à son serviteur sauvé des eaux, nous l'avons toujours suivie, respectée, entretenue. Elle est formelle. Écoutez-la. Voici le livre, voici l'écriture, voici la Bible, voici les nombres. Les nombres, chapitre 35, paragraphe 19. Le parent du mort tuera l'homicide. Aussitôt qu'il le rencontrera, il pourra le tuer. Et voici l'Exode, chapitre 21, paragraphe 29. Si quelqu'un frappe sa femme enceinte et qu'elle accouche d'un enfant mort, mais qu'elle vive, il sera tenu de payer l'amende et de ce que décideront les arbitres. Mais si la mort s'ensuit, il rendra vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, cheveux pour cheveux, brûlure pour brûlure, pluie pour pluie, meurtrissure pour meurtrissure, coup sur coup. Inutile de paraphraser, rien de plus clair et de plus net que le texte de cette charte divine dont je m'appuie et me couvre. Or, prononcez, a-t-il agi selon des enseignements reçus, celui qui vous parle ? A-t-il, Shmamuel, accompli son devoir ainsi que l'eussent fait hier et même il y a 6000 ans, ceux dont il procède ? Oui, n'est-ce pas? Eh bien alors, remplissez aujourd'hui le vôtre en proclamant en ce lieu qu'il ne vous appartient pas de sacrifier l'intègre observateur d'une règle différente de la vôtre, un justifié convaincu de l'infaillibilité du seul et vrai Dieu. Bref, enfin, osez déclarer ici, chrétien, que vous n'avez pas le droit de le frapper, ce juif. Fort ému, la foule étouffait l'explosion de ses sentiments. Ils n'éclatèrent que lorsque le jury, non moins ému qu'elle-même, eut rapporté de la salle des délibérations un verdict favorable à l'accusé, qui sortit acquitté du palais de justice, et tout auréolé par les gloires du soir, s'en alla, on ne sait où, du pas tranquille de tout homme dont la conscience est sans reproche, et nonchalant d'un père qui n'a plus de famille, ni de maison. Avril 1888.